Gloire à Dieu. Voilà, nous
bénissons Dieu. C'est lui qui œuvre dans nos vies, c'est lui qui œuvre dans nos cœurs. C'est un jour particulier, cette commémoration, à l'honneur du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons célébré il y a une semaine de cela la montée de Jésus au ciel, l'ascension. Et nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Et j'aimerais peut-être mettre l'accent sur trois aspects de la présence de l'Esprit, comme le disait Stéphane, dans cette quête finalement de ce devoir de mémoire en cette fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, qu'est-ce que cela a changé dans ma vie? C'est ça la question qui doit nous accompagner lorsque nous nous rappelons des hauts faits de Dieu. Dire ce que Dieu a fait, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous le faire dire. Et ensuite, si nous l'avons dit, si Dieu a été bon, comment cette bonté se manifeste dans notre vie de chaque jour? Trois éléments que nous allons voir ce matin. Le fruit de l'Esprit, et je pense que parfois, quand on parle de la Pentecôte, on ne fait pas attention à ce que la première chose que Dieu, par son Esprit, veut faire, c'est de changer les caractères. Quand Dieu accomplit quelque chose dans nos vies, c'est pour nous changer profondément. La deuxième chose, c'est ce que la Bible appelle l'armure de Dieu, que moi j'appelle l'équipement de l'Esprit Saint, être équipé par cet Esprit. Et puis ensuite, il y a le service, ces dons que Dieu nous fait pour le servir. Pour les plus anciens, c'est des textes que vous connaissez, pour ceux qui sont nouveaux, je donnerai quelques références et puis l'idée, c'est que vous alliez puiser ou si vous voulez aller plus loin, que vous puissiez être là aussi les mardis ou en tout cas aller sur notre site internet. Les messages sont là, mais aussi nous approcher pour que nous puissions peut-être mettre ensemble avec vous des études bibliques pour aller plus loin avec notre Dieu. La Pentecôte était cette fête que les Juifs, dans l'Ancien Testament, accomplissaient sous la convocation de Dieu, 50 jours après le début de ce qu'on appelait la fête des prémices, donc de la Pentecôte. Et c'était une fête qui était faite pour justement témoigner des bontés de Dieu. À l'occasion des premiers fruits de la moisson, le peuple était convoqué pour dire sa reconnaissance à Dieu, pour dire son témoignage à Dieu. Et c'est ce moment-là que Jésus va choisir pour accomplir la promesse du Père, pour faire venir l'Esprit Saint. Lisons dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, et je ferai une lecture un peu particulière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 12. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je saute jusqu'au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Puis elle leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » pour le pardon de ses péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Amen. Voilà le témoignage historique vrai de cette manifestation extraordinaire. Vous savez, parfois les manifestations extraordinaires ne donnent pas toujours le résultat qu'on attendrait. Ceux qui ont été témoins, ils ont dit, ah, les gens, ils ont bu, ils sont un peu saouls. Et Pierre, avec sérénité, explique la parole de Dieu. Vous savez, parfois dans l'émotion, dans le cohue, Dieu donne le calme pour expliquer la parole. Parce que c'est celle-là qui produit du fruit dans les cœurs. Et plus tard, l'apôtre Paul va écrire des lettres pour nous dire comment cet esprit agit après cet événement historique de la Pentecôte, quel est son travail perpétuel jusqu'au retour du Fils de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et nous allons voir. Pour les plus anciens, nous allons revoir. Pour les nouveaux, vous allez découvrir les fruits de l'esprit. Encore. C'est ce texte, cette portion de texte que j'ai extrait d'un long paragraphe pour focaliser sur celui-là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et là, l'apôtre Paul met une emphase importante. Parce que quand il parle aux Galates, dans cette épître, les Galates étaient déjà des chrétiens, mais ça n'allait pas, puisque dans cette communauté, les gens commençaient à vivre un peu n'importe comment. Il y avait des tensions entre les frères et sœurs. Et avant de parler des fruits de l'esprit, il dit, si vous continuez à marcher selon la chair, vous allez vous dévorer comme des animaux. Ressaisissez-vous. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, si vous témoignez de la bonté de Dieu, asseyez-vous, regardez votre caractère, regardez votre comportement. Vous avez des critères objectifs pour savoir qui vous êtes en Jésus. Nous avons chanté, il nous a libérés de nos peurs, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que ce que nous sommes, c'est pas ce que le monde verra de nous. Et donc ces fruits de l'esprit sont, vas-y, bien-aimés, rappelons-nous, l'amour. L'amour n'est pas juste un mot. L'amour n'est pas juste un sentiment. L'amour n'est pas juste une émotion. L'amour est un engagement. Un engagement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est ce commandement qui résume toute la parole de Dieu. Bien-aimé, l'amour, on en parle beaucoup, on le vit un peu, et on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Mais c'est un bon chemin que de me dire, je veux aimer selon Dieu. Je ne suis pas encore arrivé, mais je veux vraiment aimer comme Jésus a aimé. Et c'est facile de voir comment Jésus a aimé. Il faut lire les évangiles, il faut étudier les évangiles, et on voit l'amour de Jésus. La joie, c'est pas une joie qui est liée au compte en banque. C'est une joie qui est liée au fait que nous sommes enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? As-tu fait la paix avec Dieu? Ça veut faire la paix avec Dieu. Matthieu chapitre 7, 21 dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé même des démons en ton nom. Jésus dit là, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Jésus ne dit pas que vous n'avez pas fait ces choses-là. Jésus dit que votre caractère, votre vie ne prouve pas que vous êtes mes enfants. Les trucs extraordinaires, vous savez, il y a des religions qui font des choses extraordinaires. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Je suis d'une culture où on croit aux choses des esprits. Et j'ai été victime des choses spirituelles. Donc ça existe, même dans le monde non chrétien. Donc faut pas croire. Faut pas croire. C'est pour ça que la Bible dit, ne croyez pas tout esprit, jugez. Parce que même le faux, il est capable de faire des miracles faux. Jugez. Et comment on juge? Ben, on juge en regardant ce que nous sommes. Jésus a donné ce principe simple. Il dit, quand on reconnaîtra l'arbre par son fruit, le caractère, la transformation, ressembler à Jésus. La joie là, elle vient de ça, du fait que je suis en Christ et pas forcément des œuvres que je fais, mais d'abord ma position en Christ. La paix. Jésus dit dans les béatitudes que les enfants de Dieu doivent être des artisans de paix. La force que l'Esprit nous donne, c'est de nous battre pour rester en paix avec tous ceux que Dieu nous donne. La paix, c'est une lutte. Hein. Être en paix avec les gens, c'est pas toujours simple. Et beaucoup de fois, il y a des causes de ne pas chercher la paix. On regarde ce qui se passe en Ukraine, on dit, oula, quand même. Moi, je dis souvent, au lieu de focaliser sur l'Ukraine, focalise-toi sur toi. Tu peux tirer à boulet rouge sur qui tu veux dans la guerre en Ukraine, mais regarde à toi-même d'abord. Est-ce que toi, tu fais la paix avec tout le monde? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ceux que tu voulais te réconcilier? Est-ce qu'il n'y a pas de petits palabres latents? N'oubliez pas que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 10 ans. Et parfois, on est dans des choses. Ah, que Dieu nous aide. L'Esprit de Dieu nous est donné pour nous donner la capacité de vivre en paix. Ce que nous ne pouvons pas faire, l'Esprit de Dieu veut nous aider à le faire. La patience, je n'en parle pas. L'amabilité, je passe. La bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons besoin. Il est là en nous. Au-delà des aspects extraordinaires, c'est le caractère qui veut transformer. Et nous en avons besoin dans tous les domaines de nos vies, que ce fruit de l'esprit continue de se matérialiser avec force et raison. Si tu veux voir si tu grandis, prends les fruits de l'esprit et regarde où t'en es. C'est là que tu peux juger si tu grandis. Moi, j'ai peur des manifestations extraordinaires. Pourquoi? Parce que Jésus m'a averti en Matthieu chapitre 7 que d'autres gens peuvent faire ces manifestations extraordinaires. Par contre, on ne peut pas imiter un enfant de Dieu. C'est pas possible. Jean chapitre 1 dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de chair, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui transforme des vies à l'image de Jésus. C'est ça qui est mon baromètre. Où j'en suis avec ce fruit que l'Esprit de Dieu veut développer dans mon cœur, dans mon caractère, dans ma vie. Après, c'est Dieu qui m'utilise. Mais on dit souvent, avec raison, Dieu ne regarde pas d'abord à l'œuvre, il regarde à l'ouvrier. Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu fais, il regarde à ce que tu es. Il va pas d'abord nous juger sur ce que nous avons fait, il va juger sur ce qu'on est. Mais en fait, ce qu'on est définit ce que nous faisons. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas rempli d'amour, ben son amour parfois est un peu hypocrite. Parce qu'il n'est pas rempli de cet amour pleinement. C'est pas tout faire. Deuxième élément, vas-y, l'équipement. C'est que l'apôtre et la Bible appellent l'armure. Dans un contexte de guerre qui est à notre porte et que nous connaissons, j'ai plutôt choisi, moi, le thème équipement au lieu de thème armure. Et nous connaissons ces équipements-là. Vas-y. Le texte, il est là. Je vais ressortir les éléments et les citer juste pour nous encourager. Vas-y. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, vérité, justice. Les bonnes dispositions de paix que donne l'évangile, le zèle de l'évangile. La foi, cette confiance inébranlable en Dieu et qui nous donne de garder les valeurs de Dieu, même quand toute la société dit, ça c'est pas les bonnes valeurs. Le salut, ce casque, notre attachement à Dieu. Et puis, la parole de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la Bible.
Si tu veux montrer ton amour à Dieu, montre ton amour dans l'attachement, à la méditation, à l'étude, mais bien plus. Jésus dit, écoutez, c'est bien, lis, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Pratiquer, c'est mieux. Où en es-tu avec l'application de la parole de Dieu dans ta vie? Moi, je nous encourage dans cette évocation du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Parler, c'est trop. Agir, vivre, c'est mieux. Je veux vivre ta parole. Parfois, elle coule comme de source. Des fois, elle est comme le saumon qui doit remonter le courant en sens inverse. Et là, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est pas toujours simple. Mais il est là, pleinement pour nous. Que Dieu nous aide. Et enfin, les dons spirituels. Les dons spirituels sont cet équipement spirituel que Dieu a mis à notre disposition pour servir. Et ce service se fait bien sûr dans l'église, mais aussi dans le monde. Et vas-y. Et on peut balayer tous les dons quand on prend ces trois tests clés. On en a à peu près 19, mais au-delà de ces 19, faut que tu cliques encore pour qu'il basse, voilà, au fur et à mesure. Prophétie, enseignement, exhortation, service, libéralité, direction, miséricorde, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, don d'opérer des miracles, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, les apôtres, les évangélistes, les bergers, les pasteurs, les assistances, l'aide au secours. Il y en a tellement. La question, c'est pas où est mon don? La question, c'est comment tu t'engages dans l'église? Vous savez, l'église, c'est une œuvre de Dieu. S'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui se lèvent pour servir, quand on est une petite communauté, on a besoin que tout le monde se lève pour servir. On a besoin que tout le monde se lève pour se donner la main pour servir. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit que Dieu continue de parler dans le monde. Il a besoin de l'église. Le Covid a mis en exergue, et je termine par là, deux types de chrétiens qu'il faut pas être. Le Covid a mis en exergue ce qu'on appelle les chrétiens pyjama. Ils ont pris l'habitude de rester maintenant. Vous savez, le culte, c'est une célébration solennelle à l'honneur de Dieu. Fais un culte couché, avec un écran devant soi. Je suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Je suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Je suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Demandez-vous, ceux qui sont malades et qui n'ont pas le choix, et qui suivent un culte couché, ils ont bien envie de venir dans la salle de culte. Demandez à Tina si elle a pas envie de venir faire le culte ici en présentiel plutôt que de rester à la maison. Demandez-lui, elle vous le dira. Donc, si on est bien portant et qu'on devient des chrétiens pyjama, attention les frères. C'est l'honneur de Dieu que vous mettez en cause. Le culte, c'est quelque chose de solennel. Faut pas l'oublier. Dieu, il est proche de nous, il est notre père, il est notre ami, mais Dieu, il n'est pas notre copain. Faut pas confondre. Il y a deux thèmes qu'il faut pas confondre. Dieu, il aime qu'on le vulgarise, c'est-à-dire qu'on parle de lui, qu'il soit populaire, qu'il passe partout. Mais la vulgarité, Dieu n'aime pas. Être vulgaire, c'est pas pareil que vulgariser quelque chose. Être vulgaire, c'est finalement ne pas respecter quelque chose ou quelqu'un. Et parfois, notre façon de vivre, notre foi ou de faire les choses n'est pas loin de ça, quelquefois. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir l'Église. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'aime les petites églises. Parce qu'on peut pas se cacher dans une petite église. Une grande église, tu peux venir tous les dimanches et puis tu fais rien. Tu as juste besoin de venir. Il y a 3000 personnes. Personne ne te connaît. Tu viens consommer. Mais il faut toujours vous dire, même une église de 3000, il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui bossent derrière. Il y a des gens qui donnent derrière. Si on est chrétien rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on vient passer son temps à venir dans l'église sans s'impliquer, je vous pose la question. Est-ce que c'est pour ça que Dieu vous a donné son esprit? Venir juste passer? On dit dans nos églises que c'est 20% qui travaillent pour les 80%. C'est pas juste. Parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu et Dieu nous a donné tous un don. Comment se fait-il alors qu'il n'y a que 20% qui se lèvent? Si c'est la Pentecôte, levons-nous, impliquons-nous, engageons-nous pour travailler pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, cette église, Cette église, pour l'essentiel, elle est soutenue par les plus anciens qui sont à la retraite. C'est incroyable quand même. Alors qu'il y a plein de jeunes adultes, mais c'est des anciens qui soutiennent cette église-là. C'est des anciens qui soutiennent cette église-là. C'est des anciens qui soutiennent cette église-là. Levons-nous. Les plus jeunes, levez-vous. Impliquez-vous. Ici, c'est la maison de votre père. Levez-vous, impliquez-vous. Les anciens, ils l'ont compris. Ils continuent. C'est incroyable. Même à la retraite, ils continuent de donner de leur temps, de leur argent, fidèlement. Et je peux le dire, parce que je le sais. Fidèlement. Hein? La jeune génération, on est un peu des yo-yo, hein. Aujourd'hui, on est dans telle église, demain, on est dans telle autre église. C'est pas grave, hein. De toutes les façons, les églises, ça tient. Mais ça tient parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'y engagent. Qui sont fidèles. Vous savez, la Pentecôte, c'est aussi ça. Nous interpeller sur notre fidélité dans le service. Aller visiter de temps en temps d'autres églises, c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Mais porter une église qui a besoin de vivre pour que l'évangile soit proclamé, pour qu'il y ait un service tous les dimanches, pour qu'il y ait du matériel, pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient du matériel pour servir Dieu, pour crier, venez, c'est le jour du salut. Ça demande de l'engagement. Et je bénis Dieu pour tous les anciens de cette église. Que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Que votre engagement, que Dieu vous bénisse. À tous les jeunes qui l'ont compris et qui s'engagent depuis des années. Je vois quelques jeunes qui se sont engagés. À un moment donné, on a dû dire, au conseil, on a dit, soyons sages. Ce frère, honnêtement, il est là tous les dimanches. Sans murmurer, il est au service. On est bien content d'être au dépens de son service. Mais quelque part, on l'épuise nous aussi. Alors, si on ne veut pas épuiser les uns et les autres, la Pentecôte, c'est là pour nous rappeler que Dieu a besoin de chacun. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Levons-nous et servons notre Dieu. Amen.